semaine, nous avons reçu une lettre. Le pape nous a écrit à tous. Une lettre magnifique, un peu longue, mais magnifique. Elle commence ainsi. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens, et nous, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice, marquée par cette joie, et pour indiquer des voies pour la marche de l'Évangile dans les prochaines années. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels et de la conscience isolée, fermée sur soi. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Personne n'est exclu de cette joie. Voyez, cette lettre est une promesse. Je la reçois comme telle. Le Seigneur nous promet une joie nouvelle. Il viendra dans la mesure où nous quitterons nos nids, nos tanières, pour aller à la rencontre des autres et leur partager l'Évangile. Alors, ce n'est pas une lettre pour nos bibliothèques, c'est une lettre pour la mettre en pratique. C'est une lettre, je crois, que l'on ne comprend que si on l'accueille personnellement d'abord, comme un appel à la conversion personnelle. Parce que si on la lit comme un appel à la conversion des autres, on risque de passer un peu à côté de ce que le Seigneur veut nous dire, et surtout de ce qu'il veut nous donner, de cette grâce de joie. La clé est donc de se décider à se laisser rencontrer par le Seigneur et à accueillir sa joie. Et c'est bien à cela que nous invite le temps de l'Avent. L'Avent est un temps pour retrouver le désir de Dieu. Moi-même qui porte le nom de moine, je peux si vite être submergé par les choses à faire, les nécessités pastorales, sans parler des passions qui font la guerre en moi comme en chacun. Et on se retrouve submergé. Notre monde intérieur est plus bruyant que les bars de Montréal les soirs où joue le Canadien. C'est vous dire. Le monde et ses soucis nous dévore vite et nous perdons le sens de Dieu. Dieu n'habite plus alors notre regard, notre cœur, nos décisions, notre volonté. Dieu se retrouve comme un itinérant en moi, en attente d'un regard et d'une demeure, en moi, en toi. Jésus nous dit le fait que le temps qui précède sa venue en gloire est semblable au jour de Noé. Ça, c'est le début de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 6. Les gens ne se sont doutés de rien. Les gens n'ont eu aucune conscience du déluge qui venait, c'est-à-dire de la fin d'un monde qui ouvrait à une autre création. Ils ne se sont doutés de rien. Ils étaient tous au Black Friday. La comparaison avec le temps de Noé est d'autant plus forte que Jésus nous dit que sa venue sera précédé par toutes sortes de guerres et de cataclysmes. Mais les gens ne se sont doutés de rien. Ils mangent, ils boivent, ils font la fête, ils jouent sur Internet, ils s'envoient des emails, ils travaillent, mais sans se douter de ce qui vient. Alors, est-ce qu'il faut passer son temps à l'église, comme des grenouilles de bénitiers qui se noient dans leur dévotion? Non, non. L'évangile est très clair. Jésus nous dit que deux hommes sont au champ. L'un est pris, l'autre laissé. C'est-à-dire, deux hommes sont occupés à travailler. Pas à l'église, sont occupés à travailler. Mais l'un est pris, c'est-à-dire pris dans l'amour du Seigneur qui vient, et l'autre est laissé, parce qu'il ne veut pas de Dieu. Deux femmes sont à moudre le grain, l'une est prise, l'autre laissée. Ils sont tous deux sur Internet, l'un est pris, l'autre laissé. Il n'est pas question de se désengager de la vie, du travail, de la famille. Mais il s'agit de garder le cœur éveillé, de rester attentif à Dieu. Il y a un programme qu'on ne doit jamais fermer, c'est l'attention à Dieu, le désir de Dieu. Cette vigilance du cœur qui scrute l'œuvre de Dieu, non pas pour remplir des pages d'un journal intime, mais pour se laisser conduire par le Seigneur, pour mettre notre vie dans ses mains. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Saint Paul nous l'a rappelé tout à l'heure, voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Sortir de notre sommeil. Ces paroles de Paul sont, je crois, particulièrement actuelles aujourd'hui, parce que nous vivons dans une culture qui anesthésie notre vie spirituelle. Le pape parlait avant-hier, dans une homélie, de ce qu'il appelle la tentation universelle. Il y a tout un courant aujourd'hui qui veut se débarrasser de la religion, en finir avec Dieu une bonne fois pour toutes. Or, à l'approche de la venue en gloire de Jésus, il y aura ce que l'on voit, des conflits, des catastrophes naturelles. Mais dit le pape, il y a aussi ce qu'il appelle la profanation de la foi. On ne pourra plus parler de religion. Les signes religieux seront enlevés. On aura l'impression que Satan est maître de tout. Et c'est alors que viendra le Fils de l'homme, c'est-à-dire que s'accomplira la victoire déjà acquise à Pâques. Mais il y a donc d'abord ce que le pape appelle « il divieto di adorazione », c'est-à-dire le temps de l'adoration interdite. Un temps où il sera interdit publiquement d'adorer Dieu. Vous voyez l'enjeu d'un sanctuaire d'adoration aujourd'hui. Vous voyez le service quasi maternel que nous avons à rendre à notre ville. Offrir à la ville un espace où l'on retrouve l'adoration de Dieu. Mais l'adoration n'est pas simplement ici. Elle doit accompagner notre vie quotidienne dans cette vigilance du cœur. Le temps de l'Avent est un temps de grâce pour retrouver cet éveil du cœur, cette présence continuelle, toute simple, à Dieu qui est là et qui nous aime. Hier, le théologien orthodoxe John Hadji Nicolaou nous parlait de la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Il nous disait que c'est une prière qui peut accompagner tout notre quotidien, à la maison, dans le métro, en faisant la file à la caisse à Intermarché, que sais-je. Est-ce que c'est seulement pour les contemplatifs, cette prière continuelle? Grégoire Palamas, au XIVe siècle, c'est pas hier, répondait ainsi: « Que l'on n'aille pas penser, frères chrétiens, que seuls les prêtres et les moines ont le devoir de prier continuellement, et non les laïcs. Non, non. Tous les chrétiens ont en commun le devoir de se trouver toujours en prière. Prier continuellement. Restez dans cette présence de Dieu. Si la chose vous paraît difficile au début, soyez sûr et certain que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, invoqué continuellement, aplanira nos difficultés. Avec le temps, quand nous aurons été comblés de douceur en lui, nous saurons d'expérience que son invocation continuelle n'est ni impossible ni difficile. Cette prière du cœur est une lumière qui éclaire toujours l'âme de l'homme et allume son cœur aux flammes de l'amour divin. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur, ou prends pitié de nous. Ou une autre formule, Seigneur Jésus, tu es ma joie, envoie ton esprit et sauve-moi. Voyez, il s'agit de garder le cœur en prière, de garder le cœur en Dieu. Et c'est une source de joie très profonde. Quand on monte à Jérusalem pour écouter Dieu, que se passe-t-il ? Isaïe nous l'a dit dans la première lecture, on se met à transformer nos épées en socs de charrues et nos lances en faucilles. Bien de même, quand nous rejoignons la présence de Dieu en nous, c'est cela que nous expérimentons. Nous n'avons plus besoin de faire la guerre. Nous laissons à Dieu le jugement et notre vie commence à transmettre la paix. La paix et puis la joie toute spéciale, inimitable de ceux qui vivent de Dieu. Une joie. Alors, faut-il aller sur une montagne pour trouver la joie de Dieu ? Non, ça commence à Intermarché. La mystique et la joie nécessitent-elles de quitter nos frères et sœurs ? Je conclus avec ce que le pape nous dit au numéro 272 de sa lettre. Quand nous vivons la mystique, écoutez bien, quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres, afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent, pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine davantage pour reconnaître Dieu. Seigneur Jésus, tu es notre joie. Garde nos cœurs en toi. Garde nos cœurs dans ta joie. Amen. Amen.